Eh bien, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus en ce lieu où nous avons à cœur de partager la parole de notre Seigneur, pouvoir passer un moment ensemble à le louer, à l'adorer par nos chants, par nos prières, par l'étude et la méditation de sa parole. Et il est toujours bon aussi pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ça fait partie aussi d'un des aspects de ce thème que nous avons abordé il y a 2 semaines maintenant, soyez fraternels, soyons fraternels. Et nous étions arrêtés sur la lecture de quelques versets, donc de 1 Corinthiens 13, chapitre 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, un piano qui sonne faux dans le vide, qui ne donne rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand bien même je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. On voit l'importance, cette essence même, ce lien, cette force qui fait que les actions que nous menons, ce que nous faisons, n'a pas du tout la même portée, la même signification. Et 1 Corinthiens, donc 13, verset 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » La charité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour de Dieu et du prochain, c'est une des trois vertus que nous venons de voir. Ayez la charité de lui pardonner, ayez de l'indulgence, faites l'aumône, hein, faire la charité, répondre à l'aumône. Et la signification, enfin l'origine latine, c'est charus, qui signifie chair, C-H-E-R. Puis il y a la compassion c'est la sympathie, pitié pour les maux d'autrui. Et au sens figuré, c'est faire compassion, inspirer une pitié, mais parfois avec une notion de mépris. Et enfin, il y a la pitié, ce sentiment de sympathie pour la souffrance des autres, hein, j'ai pitié pour lui. J'ai pitié de voir ce qu'il peut ressentir. Prendre en pitié, c'est éprouver, voilà, ce sentiment pour quelqu'un. J'ai pitié. Mais ça peut être aussi un sentiment de dédain. Chose propre à exciter le mépris. Quelle pitié. Ou tu me fais pitié, dans le sens où ben, tu me dégoûtes. Vous voyez un peu la signification. Et si derrière ça, nous n'avons pas l'amour, la pitié n'a pas la même signification. Dire à quelqu'un, j'ai pitié pour toi, j'aimerais porter ta peine, je porte ta peine. Mais on peut aussi dire, comme nous avons vu, ah, tu me fais pitié, mais t'es rien, quoi. Tu vaux rien. Tu n'as aucune consistance. Tu es insignifiant, voilà. Tu es insignifiant. Le mépris. Et pourtant, c'est de la pitié. On peut voir quelqu'un sans le regarder, sans éprouver aucun sentiment envers lui. Parce que quand on regarde quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose ou il ne se passe rien. Et quand on voit l'attitude de Jésus, il se passait toujours quelque chose quand Jésus regardait quelqu'un. Quand le regard de Jésus croisait quelqu'un. Toi, suis-moi. Et la personne se mettait en action. Jésus a réellement exprimé et a manifesté ce sentiment très fort. Mais pas de la pitié au sens je peux rien faire pour vous, quoi. Vous êtes tellement misérable. Mais même Jésus n'a pas tourné ni. N'a pas détourné ce regard, n'a pas détourné l'oreille du brigand qui était à côté de lui. Il a eu pitié de lui. Et moi, je ne voudrais aimer éventuellement que ceux qui m'aiment, que ceux qui éprouvent les mêmes sentiments pour moi. Ben, c'est trop facile. Là, il n'est même pas notion de fraternité. Quel est l'effort, entre guillemets, que je fais d'aimer ceux qui m'aiment? Mais Dieu n'a-t-il pas été bien au-delà de cela en disant « Aimez vos ennemis !» Aimer sans rien attendre en retour tel qu'il est, avec ses défauts. Alors vous me direz aujourd'hui, à quelques jours de ce qui s'est passé sur Paris, aimer vos ennemis, ça peut faire frémir. C'est-à-dire, mais comment je peux aimer des barbares, des sauvages, des assassins, sans pitié, n'éprouvant aucune pitié? Mais Dieu nous demande de prier pour que eux-mêmes soient touchés par Dieu. La connaissance que nous avons de l'amour de Dieu ne passe pas seulement par la manifestation de son amour envers nous, mais par l'exhortation à l'amour fraternel. Soyez fraternels, mais il faut que ça se dirige vers les autres. C'est bien beau de dire « soyez tous fraternels » et puis il n'y a rien qui se passe. Soyez fraternels, c'est mettre en action, en application. Ou c'est juste lui tape, t'as des problèmes, je te tape juste sur l'épaule et puis voilà, je pars. Est-ce que c'est ça être fraternel? Ou il n'y a pas un plus? Le plus de 1 Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je peux frapper sur l'épaule, c'est comme si je le tapais. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 16 à 21, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Parce que Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel aussi nous sommes dans ce monde, et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, je suis serviteur de Dieu, Dieu est grand et je vais aller tuer mon frère. » Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien sûr, comment nous pouvons être fraternels, soyez fraternels, sans aimer Dieu? Sans aimer toutes les facettes de Dieu? Le Dieu qui nous aime, qui nous protège, qui nous dirige, mais aussi le Dieu qui nous reprend, qui nous façonne, qui nous redresse. Parce que nous avons parfois une tendance à marcher droit, mais en crabe. Nous avons vu que Dieu est en amour, a accompli en nous une œuvre parfaite, en ce qu'il nous a laissé cet amour. Jésus, sur terre, a montré cet amour, mais il l'a laissé à toutes celles et ceux qui voulaient se laisser porter, transpercer, s'émouvoir, vivre et partager cet amour. Dieu nous a remplis d'amour. Et ça, nous devons en être conscients. Nous avons vu que ce n'était pas quelque chose d'inné. Malheureusement, parfois, le temps qui passe, comme la mer sur la plage de sable, enlève le sable au fur et à mesure et parfois la plage n'existe presque plus parce que la mer a emporté le sable, il ne reste que les rochers. Donc elle perd de sa beauté cette plage. Cette côte n'est plus la même. Ce qui faisait son charme c'était cette diversité. Quoi que je fasse, s'il me manque l'amour, sous-entendu, si je fais des choses sans amour, Je ne suis rien, nous dit la parole de Dieu. Je ne suis rien. Rien. Et expérimenter l'amour de Dieu, c'est connaître la plénitude. Nous l'avons déjà abordé, cette plénitude en Dieu. Quand nous sommes remplis de sa présence. Éphésiens au chapitre 3, versets 17 et 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Vous voyez, cette notion de le verre est rempli, ras-bord. Il n'y a pas de place pour autre chose que la présence de Dieu. Mais de quoi se plaignent aujourd'hui beaucoup de nos contemporains, c'est ce monde d'égoïste dans lequel nous vivons. De plus en plus. Chacun vivant d'abord pour soi, et après, éventuellement, s'il reste un petit quelque chose, je penserai peut-être bien un petit peu à l'autre, après. Dans mes yeux, quand mon regard croise celui de l'autre, est-ce qu'il y a cette notion de fraternité? Est-ce que cette personne que je croise, j'ai ce sentiment d'amour que Dieu peut avoir, que Dieu a déjà pour elle? Est-ce qu'on est capable de le voir dans notre attitude? Dieu s'est fait homme pour nous prouver son amour envers nous. Jésus l'a montré de mille et une façons, de mille et une manières, dans mille et une situations. La parole nous dit que celui qui expérimente l'amour de Dieu pour sa vie reçoit le pardon de ses péchés et devient capable d'aimer à son tour. Si je crois que personne ne m'aime, qu'est-ce qui se passe? Comment aimer en retour? À un moment de ma vie, lorsque j'étais plus jeune, c'est vrai, je pensais que personne ne m'aimait. Donc comment, moi, je pouvais aimer quelqu'un? En fait, ça renvoyait l'image. Mais nous devons d'abord aimer les autres. Ne pas attendre que les autres nous aiment. Si chacun avait cette attitude, montrait cet exemple-là, combien de choses ne se seraient pas passées depuis la création du monde? L'amour transforme, l'amour de Dieu transforme notre être et transforme les relations, transforme l'autre aussi. L'amour est un agent de liaison. Hein, nous l'avons souligné et à plusieurs reprises la dernière fois, le mot solide formant un solide assemblage. Il n'y a pas tellement longtemps, je faisais du béton à la maison et si vous prenez un sac de béton, mais si vous ne mettez pas de l'eau et ne mélangez pas, il n'y a rien qui se passe. Ça ne fera jamais quelque chose de solide. Ou si dans ce béton, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de cailloux, eh ben ça ne fait pas du béton. Parce qu'il manquera quelque chose. Prions Dieu pour que l'amour, son amour, nous inonde. Inonde nos cœurs, nos relations, notre façon de penser et d'agir envers les autres. Un amour désintéressé, hein, l'amour n'est pas envieux. C'est pas dire je vais être plus fraternel avec lui parce que peut-être il pourrait être plus fraternel avec moi. Et vous voyez, là, c'est un amour qui est intéressé. Et un amour qui est intéressé, ça va à la catastrophe. Un amour doit être sincère. J'espère ne pas seulement aimer, là j'ai mis un mot, je parle de la Saint-Valentin, 14 février. Aimer, mais pas seulement la Saint-Valentin. Mais qu'est-ce qui se passe les 364 autres jours de l'année avec cette personne que je suis censé aimer? Est-ce que nous faisons un cadeau à la personne que nous aimons qu'à cette période-là? Ou c'est un cadeau de tous les jours? Bon, vous allez me dire, ça va commencer à faire cher, hein, si on faisait un cadeau tous les jours. Mais vous avez compris la pensée. La pensée, c'est pas le cadeau. C'est pas systématiquement et foncièrement le cadeau matériel. L'amour apporte la paix et la joie, et pas la destruction. L'amour élève l'autre, mais il faut aussi soi-même savoir s'abaisser. Comme lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous imaginez la scène, choqués, ses disciples. Oh, Seigneur, mais c'est à nous de le faire. Jésus dit, ouais, mais moi, je vais d'abord vous montrer que le maître doit être d'abord serviteur. Il doit avoir un esprit serviteur. Parce que si tout le monde se prend pour des maîtres, ben, il n'y a plus personne qui sert personne. Chacun attend de l'autre d'être servi. Vous voyez? En fait, on est tous les hauts. En haut de l'arbre, il n'y a personne en bas. Mais si nous sommes tous en bas, c'est comme ça que nous formons l'arbre, en réalité. L'amour est source de joie, de vie, de richesse. Il est équilibré, bienfaiteur. Il est antidépresseur. Une personne qui vit l'amour n'est pas une personne malheureuse, n'est pas une personne triste. C'est une personne joyeuse. C'est une personne qui sent son cœur battre dans son corps et pas uniquement un soubresaut, un souffle. Combien de maladresses commises, de critiques formulées, de jugements hâtifs par une attitude dépourvue d'amour, où on a juste oublié d'être fraternel. Et le fraternel ne s'exprime pas seulement au sein de l'Église. Est-ce que Dieu n'aime que l'Église, que les membres de l'Église, ou il est venu pour le monde, la terre entière? Est-ce que je néglige de regarder les autres dehors? Est-ce que je néglige d'avoir des pensées fraternelles pour ceux du dehors? Est-ce que je néglige de prier pour eux, même s'ils ne, et surtout s'ils ne croient pas en Dieu? En disant, ils me font pitié. Ils ne méritent pas l'amour de Dieu. Et pourtant, ce matin, le pasteur a partagé cette parole dans l'église. Et il nous donnait cet exemple de Jonas. Quand Dieu voulait envoyer Jonas à Ninive, chez les barbares, Jonas est parti de l'autre côté. Pourquoi? Pas parce que Jonas avait peur d'y aller. Mais Jonas, si vous imaginez, il se dit, mais comment Dieu peut aimer ces barbares-là? Et en plus, ils risquent d'être sauvés. Mais s'ils sont sauvés, ce ne sera plus des barbares. Voyez un peu. Saul de Tarse, c'est un assassin. Jusqu'à ce que Dieu le reprenne. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse faire demi-tour. Et c'est devenu Paul, à qui nous devons une bonne partie des écrits de la parole de notre Dieu. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Et puis dans 1 Timothée, au chapitre 4, les versets 7 et 8, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors attention, hein, ce ne sont pas des versets anti-sportifs, parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons y prendre soin, en prendre soin. Hein, sinon, tu vas me regarder avec des gros yeux, Kate. Non, tu peux continuer à courir. Non, mais Dieu nous montre que il y a réellement cette notion d'amour à vivre et à partager. Je vous propose un petit exercice. C'est que j'aimerais que vous tourniez la tête et vous regardiez la personne qui est à côté, à gauche, à droite, derrière, devant. Alors moi, j'ai l'avantage, c'est que je vois tout le monde. Bon. Bah, c'est marrant, mais je vois... Vous avez vu votre réaction ? Même sans le savoir, je vous ai vu tous sourire. Même les plus timides, j'ai vu un petit sourire. Quand on regarde l'autre et qu'on a ce sentiment, notre visage n'est pas le même. Après, on peut, vous imaginez dans le métro, vous commencez à sourire à tout le monde, on peut dire, mais il a un problème psychologique. Eh bien, c'est pas grave. Parce que le sourire renvoie le sourire. Mais quand vous faites la tête, j'allais dire, enfin, je vais pas boucher le micro, mais quand vous faites la gueule, quelle est l'image qu'on vous renvoie? Ben, la même chose. Alors, quelle est l'image que nous voulons voir renvoyer à notre Dieu? N'est-ce pas un visage souriant? Un visage qui reflète quelque chose? Parce que quand on sourit, on a les yeux qui brillent. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe de physiologique en nous qui fait que nos yeux deviennent brillants. Comme quand on aime quelqu'un, hein, on dit « tu as des étincelles dans les yeux ». Bah ouais, je t'aime alors j'ai les yeux qui brillent. Parce qu'il y a cette notion de bonheur qui se dégage, de joie qui se dégage. Alors pensez à ce petit, dans la semaine, pensez à cette petite réflexion. Comment est-ce que je regarde le monde qui est autour de moi? Avec les mêmes yeux que le Seigneur? Est-ce que j'aime les gens qui m'entourent? Ah, ça peut coincer des fois, je comprends. Je n'aurais pas aimé être à la place des personnes qui se trouvaient dans le Bataclan ou ailleurs, ou la terrasse des cafés. Imaginez. Mais si les personnes qui ont fait ça ne sont pas touchées par la grâce de Dieu, vous continuez à faire les mêmes choses. Je vous exhorte vraiment à prier pour ce monde qui se perd, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas comment réagir, qui n'a pas du tout cette notion de fraternité où c'est une pitié, mais une pitié assassine, c'est pas une pitié fraternelle. Que nous demandons à Dieu qu'il... dans son immense grâce, dans son immense amour, qu'il intervienne pour tous ceux qui ne saisissent pas cette fraternité. Et nous avons vu toutes ces belles choses qui découlent de cette fraternité, de cette charité, de cette piété fraternelle, de cette charité. Comme il y a quelques années, nous avons parlé ensemble, nous avons partagé l'histoire du bon samaritain. Voilà, un étranger qui se penche sur un ennemi. Voilà le résultat. Moi, je vous invite, là, on termine un petit peu plus tôt, mais que nous puissions, je vais relaisser la place à Adeline, mais justement que nous puissions profiter de ces quelques minutes pour méditer cela en nos cœurs, et puis je vous invite réellement à adresser quelques mots à notre Seigneur, exprimer selon vos mots cette fraternité, ce besoin, cette nécessité, que le Seigneur nous aide à l'appliquer, à la mettre en pratique, mais pas uniquement le dimanche après-midi de 14h30 à 16h30, que ce soit en français ou en vietnamien, mais tous les autres moments de la semaine. Amen, que Dieu bénisse sa parole.